Nous avons autour de nous le père Armel Dutheil, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes missionnaire spiritain, vous êtes au Sénégal actuellement. Vous êtes invité par l'association Appel Détresse, dont Jacqueline Roland est secrétaire pour l'association à Brest. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez des liens étroits avec le père Armel Dutheil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est venu à Brest cette semaine ?
Nous travaillons avec le père Armel Dutheil depuis une dizaine d'années. Armel Dutheil était un ami d'enfance. Nous sommes connus à Dakar, justement. Lorsque nous étions adolescents, nous faisions du scoutisme. Lorsque le père Dutheil était en Guinée, nous avons contribué à faire pas mal de choses avec lui. Et maintenant qu'il est au Sénégal, évidemment, nous continuons à travailler avec la Guinée et ses successeurs. Et nous avons récemment expédié un conteneur à Dakar, au printemps dernier.
Voilà, justement, donc, pour resituer l'action de l'association Appel Détresse, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous récoltez du matériel, vous avez des actions dans les pays aussi ?
Alors oui, il y a plusieurs types d'actions. Il y a d'abord un soutien récurrent à un certain nombre d'associations ou d'écoles ou de dispensaires que nous avons fondés là-bas. Une partie d'investissement que nous essayons toujours de construire de nouvelles choses. Et également l'activité conteneur qui est importante. Et nous envoyons une douzaine de conteneurs par an dans différents pays, au Sénégal, à Madagascar, à Haïti, au Togo, au Bénin et au Sénégal.
Et vous cherchez du matériel d'ailleurs actuellement, je crois.
Nous cherchons plus particulièrement en ce moment, parce que ça nous a été demandé de plusieurs destinations, du matériel ophtalmologique, et également du matériel de dentisterie.
Voilà, plus des machines à coudre.
Alors ça,
aussi.
C'est récurrent. Voilà. Les machines à coudre à pied, c'est un trésor, une machine à coudre à pied, que nous faisons, même si elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps, nous les faisons réparer par l'atelier roulage à Brest, et également des bicyclettes qui servent partout.
Alors, juste avant de donner la parole au père Armel Dutheil, Jacqueline Roland, est-ce que vous pouvez nous parler des investissements qui sont faits grâce à l'association Appel Détresse dans les pays ? Vous aidez les enfants, par exemple, pour l'éducation ?
Nous aidons de nombreux enfants pour l'éducation, soit en rémunérant des formateurs, comme ça se passe justement en Guinée.
Oui.
Il y en a. Soit en apportant une aide alimentaire dans beaucoup d'écoles, parce que les enfants arrivent l'estomac vide et il faut absolument, avant qu'ils puissent apprendre, les nourrir.
Peut-être pour concrétiser les choses, je pourrais peut-être expliquer.
Voilà, on va dire concrètement
nous a aidé
voilà.
Un peu. Donc d'abord, j'étais en Guinée. Enfin, c'était à la limite de la Guinée, c'était pendant la guerre du Libéria à Sierra Leone. Hein. Donc, j'ai travaillé dans les camps de réfugiés.
Alors, c'était à quelle période ?
Alors là, c'était de 96 à 2006. Et donc, c'était la fin, heureusement. Les attaques rebelles ont eu lieu, effectivement, en décembre 2001. Et après, il a fallu reconstruire le pays, quoi. Et donc, comme on a voulu reconstruire le pays, d'abord au niveau social. Donc, on a voulu redémarrer par les enfants, parce que en plus, on sortait avant ça de la dictature de Sékou Touré. Donc, il fallait vraiment faire tout un travail éducatif. Et donc, Appel Détresse nous a beaucoup aidés pour relancer des jardins d'enfants. On avait 117 jardins d'enfants, plus de 5000 enfants. Et donc, pour prendre en charge tout ce qui était la formation des éducateurs et la prise en charge des superviseurs de ces éducateurs. Hein. Donc, ça a été l'un des premiers volets. Le deuxième volet, évidemment, toute la vie économique avait été cassée, les villages avaient été brûlés et tout ça. Donc, on a reçu une aide importante pour relancer des petits ateliers artisanaux, donc de menuiserie, d'élevage, de couture, en fait, toute la vie. Hein. Et aussi pour répondre, Donc il y avait donc l'aspect éducation, l'aspect économique et au point de vue santé. Donc au point de vue économique aussi, je reviens en arrière, l'aménagement de bas-fonds, parce qu'ils cultivent du riz. C'est souvent, il y a le riz de montagne, mais c'est uniquement pendant la saison des pluies, le riz de bas-fond, donc le riz irrigué. Mais c'était au fond des cuvettes. Et donc on a eu tout un travail d'aménagement des bas-fonds, pour niveler les choses, faire l'irrigation, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de superficie de culture et d'avoir deux récoltes par an. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on aménage les bas-fonds. Donc on donne un coup de main pour que les gens puissent travailler et après c'est eux qui prennent eux-mêmes en charge, ils ont un moyen de travailler, ils travaillent par eux-mêmes, ils entretiennent leur bas-fond et ils continuent. Donc c'est pas une aide permanente, mais c'est une aide vraiment de démarrage qui leur permet de continuer.
Après c'est à eux
voilà.
De...
Et au niveau santé, donc tout le problème de l'eau, parce qu'il pleut beaucoup, mais souvent c'est de l'eau qui est salie, c'est de l'eau de rivière. Dans les rivières, les animaux ils vont aussi, les gens ils se lavent, ils font la lessive. Donc on a eu, avec des petits financements, un aménagement, donc on fait des cuves de rétention d'eau pour avoir de l'eau potable, de l'eau qui où les saletés se déposent et qui est utilisée uniquement avec un robinet de sortie pour la sortie, quoi. Alors ensuite, la deuxième aide, puisque comme disait...
Alors on est toujours en Guinée.
Le deuxième point, à Conakry, parce que j'ai parti à Conakry. Alors là, c'était plus le soutien de dispensaires de quartier. Et aussi d'un certain nombre de groupes de jeunes, en particulier soutien à un groupe de jeunes drogués pour les aider à s'en sortir, à travers la mise en place d'un orchestre, composition de chants, donc ce qui les a amenés à réfléchir, à prendre leur vie en main et à s'en sortir. Et puis soutien donc à des associations des enfants de la rue et aussi déjà à la prison.
Yo, in case you ain't know, I go by the name of Akon, and I'm from
Africa.
Of the Gorda Island. I'm from Senegal, west side.
Africa, Africa.
So I'm gonna share with you on where I'm from and how I was coming up.
Africa, Africa.
So what you know about the struggles that my people went through so you can live the way you live now. Say what you know about seeing that brand new mother giving away her newborn child. Say what you know about Mr. Amadou Diallo, the Senegalese cop shot down.
Vous êtes parti au Sénégal, alors dans quelles circonstances? Vous pouvez nous parler un peu de votre parcours?
Oui, bon, disons que moi j'avais fait 10 ans dans les camps de réfugiés. Là, la guerre de Libéria et de Sierra Leone s'est terminée, donc les réfugiés sont rentrés. Là, ensuite, j'étais déjà responsable de la commission justice et paix, donc de l'Église catholique à Conakry. Et puis, comme je commence à être un peu âgé, hein, j'ai 73 ans, donc les confrères m'ont dit, bon, ben, avant que tu nous quittes, hein, il faut que tu formes les jeunes. Donc, c'est l'une des raisons principales. On m'a demandé de revenir au Sénégal, là où on a notre centre de formation pour l'Afrique noire, quoi. Donc on a des jeunes, on a même des Philippins, des jeunes du Kenya, du Cameroun, du Zimbabwe, etc., qui se préparent. Hein, ils sont 16, 14 nationalités. Et en même temps, donc, je travaille dans l'équipe nationale de justice et paix du pays, quoi.
Alors, si on revient sur la formation,
oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cet axe de travail? Vous êtes à côté de Dakar, c'est ça, hein?
On est dans la grande banlieue de Dakar, oui. Grand Yoff, un quartier chaud où il y a beaucoup de violence, beaucoup de chômage, de drogue, de prostitution, etc. C'est vraiment le quartier chaud. Ben, c'est un peu pour ça qu'on est là, quoi. Hein. Alors, quand vous parlez de la formation, c'est la formation des grands séminaristes, quoi.
Oui.
Oui, alors, effectivement, pour reprendre un peu dans l'histoire, donc les Spiritains pour l'Afrique de l'Ouest, on a été une congrégation missionnaire, donc on a participé à la fondation des églises locales, bien sûr. Donc, nos grands frères, nos ancêtres travaillaient plus dans les grands séminaires, dans les paroisses. Bon, ils ont très bien travaillé, puisque maintenant, le clergé local est suffisamment nombreux pour prendre en charge les paroisses et la vie sacramentelle, liturgique, la catéchèse, etc. La preuve, c'est qu'il y a même des prêtres sénégalais qui viennent en France maintenant. Et donc, en tant que missionnaire, on s'oriente plus du côté du dialogue interreligieux. Et puis de tout ce qui est le secteur social, humanitaire, en particulier les réfugiés, les sans-papiers, les émigrés, mais aussi les personnes atteintes du sida et puis tous les problèmes sociaux, quoi.
Si on parle du dialogue interreligieux, est-ce qu'il est facile à créer, à consolider?
Au Sénégal, il est très facile.
Oui.
On a vraiment cette chance-là. Bon, il y a 90 à 95% de musulmans, hein. Mais il y a une longue tradition de dialogue. Il y a aussi le fait que bon, il y a des ethnies qui sont entièrement musulmanes, mais je veux dire l'islam noir, bon, sans vouloir faire de comparaison, mais est différent de l'islam dirons arabe ou asiatique. Hein, c'est un islam de confrérie, un islam soufi, donc qui dépend de grandes confréries qui sont venues du Maroc ou d'Algérie. Ce sont des confréries locales. Et alors en plus, dans le sud du pays, donc on a la chance les ethnies, par exemple Diola et Serer, qui étaient de religion traditionnelle et qui se sont convertis soit au christianisme, soit à l'islam. Au siècle dernier, quoi. Donc, dans les mêmes familles, on a des chrétiens et des musulmans. Et c'est ça vraiment qui aide beaucoup. Et de toute façon, tous les Sénégalais, on a une base, c'est vraiment la religion traditionnelle, qui est vraiment la base de notre unité, quoi.
Là, votre action, Père Armel Dutheil, est bien perçue, on peut le dire.
Ah oui, ça,
au
tout
Sénégal,
à fait. Ouais. Ben, dans toutes nos équipes, que ce soit au niveau de la Caritas, donc de Secours catholique, que ce soit au niveau de l'aumônerie des prisons, que ce soit dans les communautés de quartier, etc., on travaille avec les musulmans en permanence. De toute façon, même en général, au niveau de l'Église, dans les écoles catholiques, 90% des élèves sont musulmans. Dans les postes de santé, on soigne absolument tout le monde, donc ça se passe très bien. Il y a quelques groupes un peu fondamentalistes, donc des jeunes qui sont recrutés dans les villages par le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui vont faire des études en Algérie, qui reviennent, qui seraient un peu agressifs, mais ils sont surtout agressifs par rapport aux confréries musulmanes. Et c'est vraiment une minorité jusqu'à maintenant. On espère que ça va durer, mais il y a eu une très bonne entente, et souvent quand nous avons des problèmes, quand on se fait attaquer par des minorités un peu agressives, ce sont les confréries musulmanes qui nous défendent.
Alors nous continuons sur RCF Rivage notre rencontre avec le père Armel Dutheil, missionnaire spiritain. Vous êtes au Sénégal en ce moment. Je vous rappelle que vous travaillez avec l'association Appel Détresse de Brest, mais c'est aussi un réseau national. Je crois qu'il y a 17 associations en France. Alors j'aimerais que vous nous parliez, vous parliez tout à l'heure de la prostitution, de la drogue. Comment est-ce que vous travaillez justement pour aider les personnes?
Bon, alors on avait commencé d'abord par la prison. Mais on s'est aperçu que les gens, quand ils étaient souvent en prison à cause des problèmes de drogue ou de prostitution, justement, et quand ils sortaient, ils retombaient souvent dans ces circuits-là, quoi. Donc, on a essayé de travailler d'abord avec, les municipalités. Là, il faut dire que donc le noyau, au départ, était un noyau de l'Église catholique. Hein, c'était le travail de l'Église catholique. On a tenu tout de suite à travailler avec les municipalités. Bon, il faut dire qu'ils ne nous ont pas tellement soutenus. Mais, ils nous ont donné tout à fait... Enfin, un soutien, disons, moral.
Quel soutien vous souhaitiez, voilà.
Donc, ils nous ont permis au moins d'agir. Et on s'est tourné donc vers la société civile et un certain nombre d'ONG, en particulier d'associations pour la défense des droits de l'homme, etc. Donc, ce qu'on a, c'est plus une action de suivi. Par exemple, avec les enfants de la rue, on n'a pas de centre où on accueille les enfants de la rue, où on les logerait, on les nourrirait, etc. Parce qu'on se dit que d'abord, les enfants de la rue, ils ont une très grande créativité. Il ne faudrait surtout pas casser tout ça et en faire des assistés. Puis dans un deuxième sens, on dit, bon, ben, ils sont dans la rue, ben, ils souffrent, mais c'est ce qu'ils ont suivi, ben, c'est ce qu'ils ont choisi, pardon. Donc il faut un peu qu'ils subissent les conséquences et c'est comme ça qu'ils vont réfléchir et s'en sortir.
Il y en a beaucoup d'enfants dans les rues?
Oui, il y en a quand même dans tous les quartiers, donc dans les marchés, les gares routières, etc. On trouve des groupes d'une vingtaine, une trentaine. Et puis, finalement aussi, il y a beaucoup d'enfants. Ça, c'est un gros problème, par contre, des écoles coraniques. Donc, des enfants qui sont envoyés normalement pour apprendre le Coran, mais qui n'apprennent pas le Coran, n'ont pas la formation religieuse musulmane dans leur village, mais que les parents des villages, surtout des quartiers pauvres, les confient donc à des chefs religieux en ville. Et là, en fait, ils sont obligés de mendier. Ouais, ça fait partie de la formation, mais en plus, on les oblige à mendier. souvent l'éducation est quand même très très sévère avec des coups, etc. Et un certain nombre d'enfants, ou bien pour avoir l'argent qu'ils doivent rapporter au chef religieux, hein, ils doivent voler, hein, ou bien quand ils ont trop de coups, ils s'en vont. Alors le danger, c'est qu'ils se font souvent récupérer par des chefs de bande qui les utilisent après pour le vol, etc. Et notre travail, bon, au début, c'était de contacter les enfants dans la rue. Donc ils viennent seulement le mercredi, dans un centre où ils peuvent se laver, laver les habits, avoir un repas, se faire soigner. Mais aussi, il y a des séances de réflexion, enfin animées à leur manière, hein, d'éducation, des contacts avec des éducateurs. Et le reste de la semaine, les éducateurs vont dans les rues rencontrer ces enfants, voir ce qu'ils veulent faire et d'abord essayer de les connaître, gagner leur confiance. Et après, il y a la possibilité soit de les ramener dans leur famille s'ils acceptent et que la famille veut les reprendre, sinon de les envoyer à l'école, et c'est là qu'on a le soutien de certaines associations pour la prise en charge de la scolarité, soit de les placer chez des artisans bon volontaires et qui connaissent les situations des enfants pour les former et les aider à s'en sortir, quoi. Mmh. Mais en même temps, peu à peu, on essaye de travailler aussi avec les chefs de bande, hein, pour essayer de voir pour améliorer les choses.
Avec parce un certain succès quand même.
Ah oui, oui, ouais. On a quand même, je sais pas, on peut compter quand même la moitié des enfants qui retournent en famille, hein, ce qu'on a, surtout parmi les plus jeunes, et parmi les plus âgés, on en a un certain nombre qui, assez peu vont à l'école, hein, mais qui apprennent un métier et qui s'en sortent après et qui ont un métier. Et qui, on a d'ailleurs un certain nombre d'éducateurs qui sont eux-mêmes des anciens enfants de la rue. Mmh. Ouais.
Alors, Père Armel Dutheil, au Sénégal, vous avez aussi une action envers les prisonniers.
Oui, bon, ben, les prisonniers, ils sont très nombreux. Personnellement, je travaille dans trois prisons, une prison des mineurs, une prison des femmes et une prison des hommes. Donc la prison des femmes, il y a environ 150 femmes, chez les mineurs à peu près le même nombre. La prison des hommes, par contre, il y a 1000 prisonniers environ. Donc dans des conditions très difficiles, parce que ben, d'abord même de nourriture et de santé, parce que ben, le gouvernement n'a pas tellement de moyens, et bien sûr la prise en charge des prisonniers n'est pas la priorité dans un pays en voie de développement, quoi, c'est sûr. Et on a des prisonniers qui se retrouvent. Il y a des gens du Sénégal, mais aussi un certain nombre de personnes qui viennent d'ailleurs, en particulier pour des trafics de drogue, parce que la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, qui est juste en dessus, est une des voies de passage de la drogue qui vient de Colombie et qui vient en Europe. Et puis aussi un certain nombre de gens qui viennent pour faire du commerce, etc. Et puis quelquefois, ça se tourne vers le vol ou bien les détournements d'argent, etc. Il y a aussi un certain problème de bagarre, hein, de lutte, et des gens qui se trouvent en prison. Donc, la première action au début, bien sûr, ça a commencé il y a une quinzaine d'années, c'était surtout soutenir les chrétiens, donc une aumônerie catholique dans la prison, avec la catéchèse pour ceux qui le voulaient, des rencontres religieuses, des eucharisties, etc., donc chaque semaine, hein. Mais assez rapidement, on s'est dit qu'on ne peut pas s'occuper uniquement des chrétiens, sans tenir compte des musulmans, hein, et on ne peut pas non plus uniquement se contenter d'une formation religieuse et de la prière sans tenir compte des autres problèmes, quoi. Donc très rapidement, on a été amené à travailler. Donc on a actuellement eu environ 60 animateurs sur la prison des hommes, avec 12 commissions. Donc certaines commissions qui travaillent à l'intérieur, donc une commission religieuse, mais il y a une commission aussi de dialogue interreligieux, où on travaille au niveau religieux avec les imams qui viennent, et puis une commission économique avec une branche pour la santé, trouver des médicaments, trouver des médecins bénévoles qui acceptent de venir soigner à la prison, trouver du matériel, au point de vue nourriture également, hein, parce que bon, les prisonniers... Bon, la nourriture de base est vraiment insuffisante. D'ailleurs, en ce moment, les prisonniers sont depuis une semaine en grève de la faim pour des questions de nourriture, mais aussi de brimades et de conditions de vie, hein. Donc c'est vraiment assez dur, hein, puisqu'ils sont d'ailleurs même dans des chambres de 100 personnes. Donc avec la chaleur, la nuit enfermée, les toilettes à l'intérieur ouvertes et tout le reste. Donc c'est vraiment des conditions très 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 dures. Même pour la nourriture, ben, il y a vraiment le minimum. Donc les détenus qui ont de la famille sur Dakar, bon, ils peuvent recevoir quelque chose, mais il y a tous les étrangers, leur famille n'est pas là, et même ceux qui sont de l'intérieur du pays, eh bien ils se retrouvent sans rien, quoi. Alors on essaye de les aider, mais je dois noter tout de suite qu'il y a quand même une très grande solidarité entre les détenus. Je suis très très frappé. Bon, je pense que c'est le fait aussi de la culture africaine qui est très communautaire quand même malgré tout, et jusqu'à maintenant on a gardé cette dimension communautaire et qui est quand même basé sur la vie communautaire et ce qu'on appelle le palabre, c'est nous, donc la réconciliation, etc. Donc finalement, il y a assez peu de violence. La violence viendrait plutôt des gardiens, mais entre détenus, il y a très peu de violence. Et il y a beaucoup de partage, même au niveau de la nourriture, et beaucoup de soutien, etc.
Jeunesse au Sénégal, il y a des liens en Afrique. Jeunesse au Sénégal, Seigneur Mandi Diouf, n'est-ce pas? Jeunesse au Afrique, n'y a pas de problème.
Dans ce dernier volet de cette émission sur RCF Rivage avec le père Armel Dutel, j'aimerais qu'on parle des radios, car vous intervenez sur 3 radios au Sénégal.
Tout à fait.
On rappelle, dans la région de Dakar.
Alors, oui.
Assez rapidement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rapport qu'ont les Africains à la radio? C'est un rapport complètement différent par rapport à ici.
Ben, la radio est très très importante, parce que maintenant, grâce aux transistors, on peut écouter la radio absolument partout. Pratiquement, hein, parce qu'il y a suffisamment de réseaux. Ce qui n'est pas le cas pour la télévision, ben d'abord, il n'y a pas suffisamment de réseaux. La télévision ne couvre pas tout le pays. En plus, c'est pour l'électricité. Enfin, il y a des télévisions qui marchent sur batterie, mais ça vous donne une heure d'émission ou deux heures. Quoi, hein, ça peut durer pas longtemps. Donc, la radio permet de toucher les gens vraiment partout. Hein. Et c'est vraiment un grand moyen d'éducation très important.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous y faites ?
Ben, ça dépend. Je travaille au niveau 3 radios. Donc il y a une radio catholique où donc là on c'est plus une radio de à la fois de formation religieuse, de réflexion sur ce qui se passe dans la vie du pays, hein, parce que en lien donc avec la commission justice et paix. Où d'ailleurs on est intervenu pour les élections, préparation des élections présidentielles, des élections législatives. Maintenant on va préparer les élections locales, municipales. Donc on dit pas pour qui les gens doivent choisir, hein,
voilà,
quel parti choisir,
mais
les bases, comment voter, comment analyser un programme électoral, comment choisir son candidat, quelles questions poser au candidat, quels critères pour choisir son candidat, etc. quoi. Hein. Et ensuite, j'interviens dans une radio communautaire où là, on intervient plus sur les actions à mener au niveau communautaire. Actuellement, le gros problème, c'est les inondations. La ville de Dakar, la moitié de la ville pratiquement inondée. Donc, énormément de personnes qui ont dû quitter, comme chaque année, leur maison parce qu'ils ont construit sur les zones inondables. Mais au moment de la grande sécheresse, ces zones se sont asséchées. Les gens ont construit. Maintenant, les pluies sont revenues. Donc, ils sont inondés tous les ans par la saison des pluies. Et donc voir comment les accueillir, parce qu'ils logent dans des écoles, etc., comment les prendre en charge, l'action au point de vue sanitaire, lutter, éviter le choléra. Bon, essayer de voir aussi, à plus long terme, trouver où les mettre, les aider à reconstruire d'autres maisons ailleurs, essayer d'utiliser l'eau au lieu de la jeter à la mer, ce qui coûte très cher à des motopompes pour lancer du jardinage, etc. Donc c'est plus l'action, puis action de lutte contre le paludisme. Donc c'est plus un aspect sanitaire,
voilà, quoi, hein,
éducation, de prévention. Et alors à la radio municipale
alors,
de Dakar,
troisième radio.
Là j'interviens donc en wolof, hein, parce que la plupart du temps on intervient dans les langues locales. Le français c'est la langue officielle, mais la langue parlée, la langue véhiculaire, c'est le wolof. Et donc là j'interviens au fur et à mesure, chaque semaine, j'interview quelqu'un qui travaille dans n'importe quel domaine, que ce soit la santé, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les écoles, que ce soit pour expliquer qu'est-ce qu'ils font. Et toujours la ligne, c'est pas seulement d'expliquer un peu ce qu'ils font, mais de sensibiliser les gens sur les problèmes qui se posent au niveau du travail, du chômage, de la santé, de l'environnement, de l'éducation et tout ça, et de pousser un peu la population à l'action, quoi. Et là, on est vraiment soutenu beaucoup par le maire de Dakar et par les maires de communes des six communes de Dakar,
quoi. Voilà, vous avez une vie riche.
Oui, oui.
Voilà, très complète. Et vous aidez la population.
Et je dois dire que c'est riche et intéressant parce que justement, on travaille tous ensemble, quoi. J'ai la chance de trouver sans problème des gens motivés. Pas seulement chez le chrétien, mais on travaille beaucoup avec les humains. Par exemple, pour la préparation des élections, on a beaucoup travaillé avec les humains. On a la chance de travailler avec la société civile. Déjà pendant 3 ans, donc on a collaboré, c'est avant que j'arrive, mais donc la commission justice et paix, ce qu'on appelait les assises nationales, qui ont vraiment réfléchi à tous les problèmes politiques, sociaux, économiques, culturels, religieux du pays, avant les élections. Et même le président actuel et tous les candidats ont signé cette charte, et ce qui permet au pays vraiment de prendre une nouvelle orientation maintenant, beaucoup plus centré, plus attentif au monde rural, aux paysans, aux éleveurs, aux pêcheurs, aux secteurs de pauvreté et aux secteurs, disons humanitaires et économiques, et non plus seulement des œuvres de prestige, des grands hôtels, des grands tribunaux, des autoroutes pour les touristes, etc., quoi. Mmh. Donc le pays a vraiment beaucoup changé, et je crois que l'Église a sa place là-dedans, et que ça fait partie de notre travail, hein.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir, donc Jacqueline Roland et Armel Dutail. Vous repartez bientôt?
Je repars lundi prochain, voilà. Donc c'est pour bientôt.
Eh bien,
et je quitte presse après-demain matin, aux aurores.
Merci d'être venu nous voir.
Ben, merci de nous avoir accueilli, et merci à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui font quelque chose, quelle que soit l'association. On peut travailler à tous les niveaux et partout, il y a toujours du travail à faire ici et ailleurs et avec n'importe qui, quoi.